2. Dès le matin, car ici, insistons sur ce point, la préméditation est incontestable. Dès le matin, des affiches étranges avaient été collées à tous les coins de rue. Ces affiches, nous les avons transcrites, on se les rappelle. Depuis 60 ans que le canon des révolutions tonne à de certains jours dans Paris, et qu'il arrive parfois au pouvoir menacé de recourir à des ressources désespérées, on n'avait encore rien vu de pareil. Ces affiches annonçaient aux citoyens que tous les attroupements, de quelque nature qu'ils fussent, seraient dispersés par la force sans sommation. À Paris, ville centrale de la civilisation, on croit difficilement qu'un homme aille à l'extrémité de son crime. Et l'on n'avait vu dans ces affiches qu'un procédé d'intimidation, hideux, sauvage, mais presque ridicule. On se trompait. Ces affiches contenaient en germe le plan même de Louis Bonaparte. Elles étaient sérieuses. Un mot sur ce qui va être le théâtre de l'acte inouï, préparé et perpétré par l'homme de décembre. De la Madeleine au faubourg Poissonnière, le boulevard était libre. Depuis le théâtre du Gymnase jusqu'au théâtre de la Porte-Saint-Martin, il était barricadé, ainsi que la rue de Bondy, la rue Mellet, la rue de la Lune et toutes les rues qui confinent ou débouchent aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. Au-delà de la Porte-Saint-Martin, le boulevard redevenait libre jusqu'à la Bastille. À une barricade près, qui avait été ébauchée à la hauteur du château d'eau. Entre les deux portes Saint-Denis et Saint-Martin, 7 ou 8 redoutes coupaient la chaussée de distance en distance. Un carré de 4 barricades enfermait la porte Saint-Denis. Celle de ces 4 barricades, qui regardait la Madeleine et qui devait recevoir le premier choc des troupes, était construite au point culminant du boulevard, la gauche appuyée à l'angle de la rue de la Lune et la droite à la rue Mazagran. 4 omnibus, 5 voitures de déménagement, le bureau de l'inspecteur des fiacres renversé, les colonnes vespasiennes démolies, les bancs du boulevard, les dalles de l'escalier de la rue de la Lune, la rampe de fer du trottoir arrachée tout entière, et d'un seul effort par le formidable poignet de la foule. Tel était cet entassement qui suffisait à peine à barrer le boulevard, fort large en cet endroit. Point de pavé à cause du macadam. La barricade n'atteignait même pas d'un bord à l'autre du boulevard et laissait un grand espace libre du côté de la rue Mazagran. Il y avait là une maison en construction. Voyant cette lacune, un jeune homme bien mis était monté sur l'échafaudage, et seul, sans se hâter, sans quitter son cigare, en avait coupé toutes les cordes. Des fenêtres voisines, on l'applaudissait, en riant. Un moment après, l'échafaudage tombait à grand bruit, tout d'une pièce, et cet écroulement complétait la barricade. Pendant que cette redoute s'achevait, une 20aine d'hommes entraient au Gymnase par la porte des acteurs, et en sortaient quelques instants après avec des fusils et un tambour trouvé dans le magasin des costumes, et qui faisait partie de ce qu'on appelle, dans le langage des théâtres, les accessoires. Un d'eux prit le tambour et se mit à battre le rappel. Les autres, avec des vespasiennes jetées bas, des voitures couchées sur le flanc, des persiennes et des volets décrochés de leurs gonds et de vieux décors de théâtre, construisirent, à la hauteur du poste Bonne Nouvelle, une petite barricade d'avant-poste, ou plutôt une lunette qui observait les boulevards Poissonnière et Montmartre et la rue Hauteville. Les troupes avaient, dès le matin, évacué le corps de garde. On prit le drapeau de ce corps de garde qu'on planta sur la barricade. C'est ce drapeau qui, depuis, a été déclaré par les journaux du coup d'État, drapeau rouge. Une 15aine d'hommes s'installèrent dans ce poste avancé. Ils avaient des fusils, mais point ou peu de cartouches. Derrière eux, la grande barricade qui couvrait la porte Saint-Denis était occupée par une centaine de combattants, au milieu desquels on remarquait deux femmes et un vieillard à cheveux blancs, appuyé de la main gauche sur une canne et tenant de la main droite un fusil. Une des deux femmes portait un sabre en bandoulière. En aidant à arracher la rampe du trottoir, elle s'était coupé trois doigts de la main à l'angle d'un barreau de fer. Elle montrait sa blessure à la foule en criant « Vive la République !» L'autre femme, montée au sommet de la barricade, appuyée à la hampe du drapeau, escortée de deux hommes en blouse armés de fusils et présentant les armes, lisait à haute voix l'appel aux armes des représentants de la gauche. Le peuple battait des mains. Tout ceci se faisait entre midi et 1 heure. Une population immense, en deçà des barricades, couvrait les trottoirs des deux côtés du boulevard, silencieuse sur quelques points, sur d'autres criant « Abat Soulouk ! Abat le traître !» Par intervalles, des convois lugubres traversaient cette multitude. C'étaient des files de civières fermées, portées à bras par des infirmiers et des soldats. En tête marchaient des hommes tenant de longs bâtons, auxquels pendaient des écriteaux bleus où l'on avait écrit en grosses lettres « Service des hôpitaux militaires ». Sur les rideaux des civières, on lisait « Blessés, ambulance ». Le temps était sombre et pluvieux. En ce moment-là, il y avait foule à la bourse. Des afficheurs y collaient sur tous les murs des dépêches annonçant les adhésions des départements au coup d'État. Les agents de change, tout en poussant à la hausse, riaient et levaient les épaules devant ces placards. Tout à coup, un spéculateur très connu et grand applaudisseur du coup d'État depuis 2 jours survient tout pâle et haletant, comme quelqu'un qui s'enfuit, et dit « On mitraille sur les boulevards !» Voici ce qui se passait. 3. Un peu après 1 heure, un quart d'heure après le dernier ordre donné par Louis Bonaparte au général Roguet, les boulevards, dans toute leur longueur depuis la Madeleine, s'étaient subitement couverts de cavalerie et d'infanterie. La division Carlet, presque entière, composée des 5 brigades de Cotte, Bourgon, Camp-Robert, Dulac et Rebel, et présentant un effectif de 16 410 hommes, avait pris position et s'était échelonné depuis la rue de la Paix jusqu'au faubourg Poissonnière. Chaque brigade avait avec elle sa batterie. Rien que sur le boulevard Poissonnière, on comptait 11 pièces de canon. 2 qui se tournaient le dos avaient été braquées, l'une à l'entrée de la rue Montmartre, l'autre à l'entrée du faubourg Montmartre, sans qu'on pût deviner pourquoi, la rue et le faubourg n'offrant même pas l'apparence d'une barricade. Les curieux, entassés sur les trottoirs et aux fenêtres, considéraient avec stupeur cet encombrement d'affûts, de sabres et de baïonnettes. « Les troupes riaient et causaient, » dit un témoin. Un autre témoin dit « Les soldats avaient un air étrange ». La plupart, la crosse en terre, s'appuyaient sur leurs fusils et semblaient à demi chancelants de lassitude ou d'autre chose. Un de ces vieux officiers, qui ont l'habitude de regarder dans le fond des yeux du soldat, le général L., dit en passant devant le café Frascati « Ils sont ivres ». Des symptômes se manifestaient. À un moment où la foule criait à la troupe « Vive la République !» « Abat Louis Bonaparte !» On entendit un officier dire à demi-voix « Ceci va tourner à la charcuterie. » Un bataillon d'infanterie débouche par la rue Richelieu. Devant le café Cardinal, il est accueilli par un cri unanime de « Vive la République !» Un écrivain qui était là, rédacteur d'un journal conservateur, ajoute « Abat Soulouk !» L'officier d'état-major qui conduisait le détachement lui assène un coup de sabre qui, esquivé par l'écrivain, coupe un des petits arbres du boulevard. Comme le premier de lancier, commandé par le colonel Rochefort, arrivait à la hauteur de la rue Taitbout, un groupe nombreux couvrait l'asphalte du boulevard. c'étaient des habitants du quartier, des négociants, des artistes, des journalistes, et parmi eux quelques femmes tenant de jeunes enfants par la main. Au passage du régiment, hommes, femmes, tous crient « Vive la Constitution ! Vive la loi ! Vive la République !» Le colonel Rochefort, le même qui avait présidé le 31 octobre 1851 à l'école militaire, le banquet donné par le premier lancier au 7e, et qui dans ce banquet avait prononcé ce toast « Au prince Napoléon, au chef de l'État. Il est la personnification de l'ordre dont nous sommes les défenseurs. » Ce colonel, au cri tout légal poussé par la foule, lance son cheval au milieu du groupe, à travers les chaises du trottoir. Les lanciers se ruent à sa suite, et hommes, femmes, enfants, tout est sabré. Bon nombre d'entre eux restèrent sur place, dit un apologiste du coup d'État, lequel ajoute, ce fut l'affaire d'un instant. Note, le capitaine Mauduit, Révolution militaire du 2 décembre, page 217. Fin de note. Vers 2 heures, on braquait 2 obusiers à l'extrémité du boulevard Poissonnière, à 150 pas de la petite barricade lunette du poste Bonne Nouvelle. En mettant ses pièces en batterie, les soldats du train, peu accoutumés pourtant aux fausses manœuvres, brisèrent le timon d'un caisson. « Vous voyez bien qu'ils sont sous !» cria un homme du peuple. À 2h30, car il faut suivre, minute à minute, et pas à pas, ce drame hideux. Le feu s'ouvrit devant la barricade, mollement et comme avec distraction. Il semblait que les chefs militaires eussent l'esprit à tout autre chose qu'à un combat. En effet, on va savoir à quoi ils songeaient. Le premier coup de canon mal ajusté passa par-dessus toutes les barricades. Le projectile alla tuer au château d'eau un jeune garçon qui puisait de l'eau dans le bassin. Les boutiques s'étaient fermées et presque toutes les fenêtres. Une croisée pourtant était restée ouverte à un étage supérieur de la maison qui fait l'angle de la rue du Sentier. Les curieux continuaient d'affluer, principalement sur le trottoir méridional. C'était de la foule et rien de plus. Hommes, femmes, enfants et vieillards, à laquelle la barricade, peu attaquée, peu défendue, faisait l'effet de la petite guerre. Cette barricade était un spectacle, en attendant qu'elle devînt un prétexte. 4. Il y avait un quart d'heure environ que la troupe tiraillait et que la barricade ripostait sans qu'il y eût un blessé de part ni d'autre. Quand tout à coup, comme par une commotion électrique, un mouvement extraordinaire et terrible se fit dans l'infanterie, d'abord, puis dans la cavalerie. La troupe changea subitement de front. Les historiographes du coup d'État ont raconté qu'un coup de feu, dirigé contre les soldats, était parti de la fenêtre restée ouverte au coin de la rue du Sentier. D'autres ont dit du faîte de la maison, qui fait l'angle de la rue Notre-Dame de Recouvrance et de la rue Poissonnière. Selon d'autres, le coup serait un coup de pistolet et aurait été tiré du toit de la haute maison qui marque le coin de la rue Mazagran. Ce coup est contesté, mais ce qui est incontestable, c'est que pour avoir tiré ce coup de pistolet problématique, qui n'est peut-être autre chose qu'une porte fermée avec bruit, un dentiste habitant la maison voisine a été fusillé. En somme, un coup de pistolet ou de fusil venant d'une des maisons du boulevard a-t-il été entendu? Est-ce vrai? Est-ce faux? Une foule de témoins nie. Si le coup de feu a été tiré, il reste à éclaircir une question. A-t-il été une cause ou a-t-il été un signal? Quoi qu'il en soit, subitement, comme nous venons de le dire, la cavalerie, l'infanterie, l'artillerie firent front à la foule massée sur les trottoirs. Et sans qu'on pût deviner pourquoi, brusquement, sans motif, sans sommation, comme l'avaient déclaré les infâmes affiches du matin, du gymnase jusqu'au bain chinois, c'est-à-dire dans toute la longueur du boulevard le plus riche, le plus vivant, le plus joyeux de Paris, une tuerie commença. L'armée se mit à fusiller le peuple à bout portant. Ce fut un moment sinistre et inexprimable. Les cris, les bras levés au ciel, la surprise, l'épouvante. La foule fuyant dans toutes les directions. Une grêle de balles pleuvant et remontant depuis les pavés jusqu'au toit. En une minute, les morts jonchant la chaussée. Des jeunes gens tombant le cigare à la bouche. Des femmes en robe de velours tuées roides par les biscayens. Deux libraires arquebusés au seuil de leur boutique, sans avoir su ce qu'on leur voulait. Des coups de fusil tirés par les soupiraux des caves et y tuant n'importe qui. Le bazar criblé d'obus et de boulets, l'hôtel Salandrous bombardé, la maison d'or mitraillée, Tortoni pris d'assaut, des centaines de cadavres sur le boulevard, un ruisseau de sang rue de Richelieu. Qu'il soit encore ici permis au narrateur de s'interrompre. En présence de ces faits sans nom, moi qui écris ces lignes, je le déclare, je suis un greffier, j'enregistre le crime, j'appelle la cause, là est toute ma fonction. Je cite Louis Bonaparte, je cite Saint-Arnaud, Maupas, Morny, Magnan, Carlet, Canrobert, Rebel, ses complices. Je cite les autres encore dont on retrouvera ailleurs les noms. Je cite les bourreaux, les meurtriers, les témoins, les victimes, les canons chauds, les sabres fumants, l'ivresse des soldats, le deuil des familles, les mourants, les morts, l'horreur, le sang et les larmes, à la barre du monde civilisé. Le narrateur seul, quel qu'il fût, on ne le croirait pas. Donnons donc la parole aux faits vivants. Aux faits saignants. Écoutons les témoignages.